à l'écoute de Radio Calade. Tout de suite, le magazine. Accro aux écrans, la pause s'impose. Le temps moyen sur les écrans, télévision, ordinateur, console, tablette et smartphone avoisine les 3 heures par jour, d'après des récents sondages Médiamétrie et enquête de l'INSEE, qui révèlent aussi que le temps passé sur les écrans smartphones et tablettes a considérablement augmenté. Comment juger l'usage quotidien des écrans de nos ados lorsqu'on est parent? Quelle limite entre une consommation raisonnée ou une pratique invasive, voire addictive? Jeux abusifs, les écrans nuisibles au langage des enfants ou à leur santé, comment protéger nos enfants du cyberharcèlement? Autant de questions que se sont posées des parents lors de la conférence animée par le journaliste Christophe Doré, animateur pour Fréquence École, sur le thème « Parentalité, accompagner l'usage des écrans à la maison ». Il était l'invité de la médiathèque Pierre Mendès France à Villefranche, en collaboration avec le pôle information loisirs, espace numérique, du service jeunesse.
Fréquence École est une association d'éducation aux médias qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est active sur la région Rhône-Alpes, l'Auvergne et puis un petit peu aux alentours. Nous intervenons dans les établissements scolaires, primaires, collèges, lycées, et puis aussi, comme ce soir, auprès des parents d'élèves. Alors, l'association est reconnue d'intérêt général, agréée par l'éducation nationale, on a tous les soutiens possibles et imaginables, donc on est effectivement habilité à intervenir directement dans les établissements scolaires, ce qui nous permet de toucher un maximum de monde. Association qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années et qui est soutenue jusqu'au niveau européen. C'est présenté comme une conférence, on essaye d'appeler ça une conférence dynamique, c'est un débat, c'est une discussion ouverte où nous on apporte un petit peu les sujets de conversation et on essaye de susciter au maximum la discussion entre les participants, entre la salle et nous, pour essayer de mettre à bas les idées reçues et puis surtout de faire émerger les bonnes pratiques, de partager les astuces du quotidien pour que les écrans soient plus des sources de conflits. On constate que très souvent, c'est la méconnaissance ou en tout cas l'absence d'attention portée au fonctionnement réel de ces outils qui génèrent des incompréhensions et du coup de la peur ou en tout cas des a priori. Donc notre travail, c'est aussi de fournir des éléments concrets et factuels pour que chacun puisse se faire son opinion. On ne vient pas dire ce qu'il faut faire, on vient essayer de diffuser les compétences qui permettent à chacun de faire un choix éclairé.
Et accompagner peut-être les parents dans des difficultés. Et on a vu qu'il y avait des difficultés réelles.
Fréquence École ne peut pas se prévaloir de venir régler des problèmes qui seraient déjà aigus. Oui. On vient plus pour essayer de permettre à chacun, avant que ça devienne problématique, de se poser les bonnes questions, d'envisager les pistes de résolution. Un parent qui viendrait me voir en me parlant de quelque chose de vraiment grave arrivé à son enfant, quel que soit son âge, j'ai pas les compétences, je suis pas psychiatre, je suis pas juge, j'ai pas les compétences pour régler quand c'est déjà un problème. Nous, on essaie d'intervenir avant que ça devienne un problème. Alors effectivement, dans ce type de soirée, parfois il y a des choses qui apparaissent. On nous parle de harcèlement, on nous parle de trop de temps passé sur les écrans, on nous parle de consommation de contenu tout à fait inapproprié. Dans ces cas-là, on essaye de discuter, de proposer des pistes, mais j'ai envie de dire que sur ces cas-là, c'est trop tard. C'est pas trop tard pour faire quelque chose, mais c'est moins le boulot de Fréquence École. C'est vraiment, il y a des professionnels pour intervenir. Vous faites venir un plombier pour réparer votre maison, mais vous faites venir les pompiers quand il y a un incendie. On serait plus le plombier que les pompiers.
On apprend effectivement de l'utilisation de smartphones sur ces jeunes qui sont bien sûr une source, on va dire, de divertissement, d'information, mais aussi c'est presque l'utilisation d'un reflet, d'un miroir.
Alors effectivement, on s'étonne parfois de la propension qu'ont les jeunes à diffuser leur image, à la partager, mais quand on réfléchit bien, on constate qu'on fournit à des adolescents en manque de reconnaissance, en manque d'affection, en manque d'attention, des outils qui leur permettent de prendre leur image, parfois même de l'améliorer, ce dont tout le monde rêve, de la diffuser et d'attendre les marques d'affection. Donc c'est une machine à recevoir de l'amour, ou malheureusement à ne pas en recevoir quand ça se passe mal. Et donc faut pas s'étonner que les adolescents, effectivement, ils soient si attachés, d'autant plus que ça a remplacé tous les autres appareils que les générations précédentes pouvaient avoir, les baladeurs, les consoles, tout ce qu'on pouvait utiliser pour se divertir, maintenant tout dans le smartphone. Donc effectivement, c'est devenu central, mais on a toujours le choix de ne pas fournir trop tôt des smartphones à nos ados.
Alors, l'addiction, effectivement, qui revient avec le jeu vidéo et aussi sa violence qu'elle peut entraîner.
C'est très compliqué de parler de ces choses-là parce que si je vous dis qu'en général, que globalement, on constate qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de contenu violent et les passages à l'acte, il y aura toujours quelqu'un qui, de bonne foi, et il aura probablement raison, me sortira un cas où c'est arrivé. Nous, le discours qu'on essaye de porter, c'est qu'une consommation raisonnable de contenu adapté à l'âge des enfants n'est pas de nature à susciter des comportements violents. Après, vous faites jouer à des jeux abominables à des enfants très petits, vous leur permettez de le faire 12 heures par jour, je serais évidemment pas aussi catégorique. N'empêche que le lien entre consommation de contenu violent et passage à l'acte violent n'a jamais été établi.
Le problème est ailleurs.
Ce qui est vrai, c'est que ces écrans peuvent servir de révélateurs. Ces écrans sont... Ils peuvent être des symptômes. Des mauvaises pratiques, des pratiques excessives peuvent être des symptômes de mal-être par ailleurs. Ça paraît aller un peu vite en besogne que de considérer qu'effectivement, ce sont ces médias, les jeux vidéo ou les films violents qui génèrent des serial killers ou des gens particulièrement violents.
Mamma mia. Game over. Hello, here we go. Let's go! Mamma mia! Okie dokie! Press start to play! So long, Bowser! I'm tired!
Alors, un univers virtuel, est-ce que nos enfants n'ont pas une perte de la réalité?
C'est une bonne question à laquelle je ne m'aventurerai pas à vous répondre, parce que franchement, gamin, je me suis perdu dans les livres de Jules Verne, plus tard dans les films. J'ai, comme je pense beaucoup de monde, eu envie de vivre dans les environnements imaginaires. À l'époque, on disait imaginaire, maintenant on dit virtuel. Il y a probablement des personnes, jeunes ou âgées, qui peuvent perdre en partie pied par rapport à la réalité. Est-ce que c'est lié vraiment aux écrans ou est-ce que c'est des personnes qui de toute façon ont une propension à vivre un peu dans l'imaginaire et on leur fournit plus d'occasions de basculer dans l'imaginaire? Je préfère pas m'avancer parce que je sais pas.
Aussi une sous-culture, en quelque sorte, l'utilisation.
Alors, c'est vrai que dans les questions et dans le positionnement des parents, parfois apparaît le fait que les pratiques culturelles de leurs enfants seraient de moindre valeur que celles qu'ils souhaiteraient pour eux, la lecture, le cinéma d'art et d'essai, l'équitation, que sais-je encore. C'est un jugement de valeur générationnel. Nous avons tous été élevés dans un environnement. Quand on était jeunes, nos parents nous disaient que ce qu'on aimait, c'était nul par rapport à ce qu'eux-mêmes aimaient. Maintenant, on est parents, on est tenté de reproduire la même chose. Donc, je suis toujours étonné par la capacité des parents à oublier les enfants qu'ils ont été. Et parfois, ça suffit à mieux les comprendre, de s'en souvenir.
Le contrôle parental, est-ce une bonne chose?
Le contrôle parental, dans certaines situations, est probablement la seule solution. Je pense notamment aux familles monoparentales avec beaucoup de trajets, beaucoup d'heures de travail et des enfants qui pourraient être livrés à eux-mêmes à la maison. On se rend bien compte que dans ce cas-là, le problème, c'est justement qu'ils soient livrés à eux-mêmes. C'est bien souvent pas du tout la faute du parent, mais plus la société dans laquelle on évolue. De mon point de vue, comme son nom l'indique, le contrôle parental devrait être exercé par les parents. Les logiciels et les techniques qui existent pour contrôler peuvent être des aides, j'allais dire des prothèses, mais c'est vraiment la dernière solution, celle qui est en dernier recours, mais probablement pas le point de départ d'une discussion autour des usages médiatiques de ces enfants.
Et puis une grande question, le cyberharcèlement.
Le cyberharcèlement est effectivement une question qui revient très souvent, que ce soit dans les conférences avec les parents ou bien dans les établissements scolaires. C'est probablement l'avatar du numérique qui est le plus réel par rapport aux dangers supposés. Simplement, il faut bien garder à l'esprit que avant d'être cyber, c'est du harcèlement, que le harcèlement existait bien avant les environnements numériques, que les réseaux sociaux, Internet, permet au cyberharcèlement de perdurer. Auparavant, on sortait de l'école, c'était fini. Maintenant, ça nous suit à l'école, si bien sûr on a un smartphone à disposition. Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Il faut jamais oublier que la solution au problème de harcèlement, c'est dans l'établissement, c'est sur le terrain avec les personnes qui sont impliquées, avec les adultes qui peuvent intervenir. Et la solution, elle n'est pas en ligne.
Et pour terminer, nos jeunes accros aux écrans, dominateurs aussi de manque de sommeil, d'ondes maléfiques, etc.
Alors, c'est toutes les questions qui se posent autour de ces technologies, ça résume un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que comme c'est nouveau, on leur trouve tous les défauts. Et mon propos n'est absolument pas de dire qu'ils n'en ont pas. Ils en ont bien évidemment. Les ondes, eh ben oui, si vous vous mettez une batterie avec des champs électromagnétiques à côté de la tête, c'est mauvais. C'est pas un scoop, on sait pas à quel point c'est mauvais, mais c'est mauvais, c'est évident. Si vous permettez à un enfant de passer 3 ou 4 heures devant un écran avec des lumières qui vont le tenir éveillé, forcément, ça va pas l'aider à s'endormir. Si vous lui permettez d'avoir des activités ultra excitantes qui demandent une grande concentration comme des jeux, forcément, il va pas s'endormir non plus. Donc, souvent, les défauts de ces nouveaux médias, de ces nouveaux équipements, en creux, ils montrent les manquements, j'ai envie de dire, ou en tout cas les petites erreurs que peuvent faire les parents. On devrait pas dormir avec un smartphone à côté de la tête, mais d'où un gamin, il a un smartphone dans sa chambre. Oui, on devrait pas.
Ou un écran,
voilà, tout à fait. On devrait pas être trop près de l'écran. Mais à ce moment-là, vous contrôlez la façon et l'endroit où les enfants consomment ces contenus médiatiques. Donc oui, les ondes c'est pas bon. Rester trop longtemps devant un écran, c'est pas bon. Les bandes lumineuses qui sont envoyées par les fréquences lumineuses qui sont envoyées par les écrans empêchent le sommeil. Tout ça est vrai, mais il y a une bonne solution pour éviter tout ça, c'est d'avoir une consommation raisonnable, raisonnée et concertée au bon moment, dans les bonnes quantités et en bonne intelligence avec tout le reste de la famille.
Accro aux écrans, la pause s'impose. La nuit, remplacez le smartphone des enfants par un réveil classique. Votre magazine en réécoute sur radio-calade.fr.